la conférence au contraire, elle surgit des conflits, de l'exposition du Saint-Sacrement. Donc les chevaliers s'inscrivent à la grande énergie, sont pour eux de l'accueillir à cette première nuit de la Terre Sainte au Mans. C'est à nos confrères bretons que nous avons cette belle initiative dont l'objectif est de renforcer notre lien avec le Fils Christ et tous ceux qui l'habitent aujourd'hui. Avec joie que nous nous retrouvons dans cette belle église, Notre-Dame de la Couture, et je veux remercier chaleureusement le Père Christophe pour son accueil et son soutien. Alors, comme prévu, notre soirée se déroulera en trois temps, donc quelques jours de la conférence avec le Père Picardi. À 22h, pour ceux qui le souhaitent, l'office des complices suivi du salut du Saint-Sacrement. Vers 22h30, notre Seigneur sera exposé à la chapelle de la Vierge, donc à la Tour Sud, pour toute la nuit. Et là aussi, ceux qui ont le courage de nous accompagner sont les bienvenus. Donc avant de passer la parole au Père Tartier, je voudrais vous parler de notre partenaire, qui est le Père Sainte Magazine, un présentoir à la porte de l'église qu'on a installée là, tout à l'heure. Le Père Sainte Magazine est un bimestriel de 60 pages, qui, comme son nom l'indique, est entièrement consacré à la Terre Sainte. C'est l'unique magazine en langue française pensé et écrit à Jérusalem. Édité depuis 1921, Terre Sainte Magazine est l'œuvre des franciscains de Terre Sainte. Les franciscains sont très investis en Terre Sainte. Ce magazine offre un regard chrétien sur l'actualité brûlante d'un Proche-Orient qui peut parfois nous laisser perplexes. À travers de sa ligne éditoriale, Terre Sainte Magazine emmène ses lecteurs à la découverte des églises d'Orient, mais aussi du judaïsme chrétien. Portrait d'acteurs engagés dans la paix, regard sur les grands débats qui traversent la société israélo-palestinienne, reportage de terrain, mais aussi méditation spirituelle dans cette terre d'incarnation, avec Terre Sainte Magazine, restée en lien toute l'année avec la Terre Sainte. Terre Sainte Magazine est partenaire de notre nuit de la Terre Sainte, et nous serons ravis de vous offrir donc à la sortie un exemplaire de ce magazine. N'hésitez pas à le découvrir. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que les chevaliers et les sociétés aiment beaucoup la lecture de cette revue. Voilà, on est à cœur de la faire partager. Vous imaginez bien qu'on ne touche pas à quoi que ce soit sur ces rangs-là, mais voilà, on fait en amitié avec cette revue. Alors, il est temps de vous présenter maintenant notre intervenant ce soir. Bienvenue au Père Picardi, originaire de Valençon dans le département des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes né le 10 novembre 1949 à Manosque. Jeune de passage à Toulouse, vous êtes frappé par la disponibilité et l'accueil des dominicains au service de tous ceux qui venaient visiter leur couvent. Pour vous, l'aventure commence. Vous faites profession religieuse en 1974 et êtes ordonné prêtre en 1978. Comme souvent chez les frères prêcheurs, vos études vous poursuivent et vous avez ainsi obtenu une licence en théologie et un DEA de sciences religieuses. Je ne rentrerai pas dans le détail de votre parcours de frère prêcheur pour me concentrer sur ce qui nous rassemble ce soir. À partir de 2007 et pendant 9 ans, vous avez donc été le prieur du couvent Saint-Étienne de Jérusalem. Ce couvent dominicain, situé non loin de la porte de Damas, est aussi l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Votre action comme responsable de communauté religieuse dans cette mosaïque des églises chrétiennes, mais aussi comme ouvrier de paix dans vos relations avec des responsables israéliens et palestiniens, est un témoignage particulièrement stimulant. C'est cette expérience pastorale que nous allons découvrir ce soir. Revenu en France à la fin de l'année dernière, vous êtes aujourd'hui le prieur du couvent Saint-Jacques à Paris. Puisque nous plaçons cette soirée sous le regard de Dieu, nous lui demandons son aide et sa bénédiction avec un petit chant d'entrée. J'invite Vincent à me rejoindre.
Viens nous embrasser, viens. Bonsoir à tous. Pour moi, c'est avec émotion donc que je viens ce soir, et cela me rappelle durant mes 9 années à Jérusalem, lorsque avec tel ou tel frère donc dominicain du couvent Saint-Étienne, eh bien nous recevons les pèlerins qui, soit au début de leur pèlerinage, soit à la fin en terminant à Jérusalem, eh bien certains groupes venaient chez nous. Alors, si vous voulez, je vais donner un témoignage à peu près du même genre, parce que au fond nous sommes un peu comme un groupe de pèlerins et ce sera d'une manière conviviale comme cela de pouvoir échanger sur le propos qui est à la fois de donner un témoignage que j'ai pu avoir donc pastoral et en même temps un témoignage du fait que j'avais été envoyé comme supérieur. Et puis en étant supérieur, on doit se donner d'abord au diocèse où on se rend et en même temps, on peut dire, aux chrétiens et au pays. Alors ce sera une manière comme ça simplement de vous faire part de cette expérience qui est une expérience quotidienne et qui permet comme cela d'échanger sur ce qui est la Terre Sainte et en particulier Jérusalem. Cette année, pour les Dominicains, dans le monde, mais à Jérusalem aussi, c'est le 8e centenaire de la reconnaissance de la création de l'ordre par le pape Honorius, de la fondation donc de par Saint Dominique de l'ordre des prêcheurs, qui était cette communauté à l'église Saint-Romain à Toulouse. Et de là, Saint-Dominique a vu qu'il fallait aller vers des milieux universitaires qui commençaient à naître, autrement dit à Paris et à Bologne. Et c'est ainsi que je suis supérieur de ce couvent Saint-Jacques, qui est cette communauté envoyée par Saint-Dominique à Paris, qui a été dans un petit bâtiment dédié. Normalement, ça devait être dédié à des pèlerins, et ce professeur d'université qui avait fondé cet hospice pour les pèlerins, voyant des prêcheurs qui arrivent à Paris et qui sont au début de leur vie religieuse et de la création de la congrégation, de l'ordre, leur a demandé au roi que cette institution, au lieu d'être pour des pèlerins, soit pour les frères prêcheurs. Et c'est un lieu qui est à côté de la Sorbonne, tout près du Panthéon. Alors c'est aussi une émotion pour moi de me retrouver dans ce 8e centenaire, donc à Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire aussi que l'ordre de Saint-Dominique, justement, juste après la sacréation, a été présent au Proche-Orient, ou au Levant, comme on dit, et donc aussi en Terre Sainte, puisque le successeur de Saint-Dominique, Jourdain de Saxe, lui-même a fait une visite canonique au couvent de Terre Sainte, donc il y avait au moins 3 couvents, et lorsqu'il a pris le bateau pour retourner en Europe, hein, puisqu'on est en Asie, eh bien il y a eu une tempête, et donc les gens ont péri, et le corps donc de Jourdain de Saxe a été amené à Saint-Jean-d'Acre où il y avait un couvent et il se trouve dans un cimetière aujourd'hui musulman où il y a la tombe de Jourdain qui a été conservée donc jusqu'à ce jour. C'est intéressant donc de vous faire voir que les Dominicains dès l'origine se sont trouvés donc en Terre Sainte, mais à l'occasion du 8e centenaire on doit voir que avec les papes d'Avignon, très vite, les papes d'Avignon, de par la fait, pas seulement d'une politique, mais des échanges internationaux, ont vu l'importance de l'Orient. Et il y avait les franciscains, mais ils ont voulu aussi que des dominicains ou des carmes aient mandat d'aller dans les pays qui sont la Syrie, la Terre Sainte, l'Arménie, la Géorgie, ce qui est l'Irak, et vers les Indes. Et le but était d'apprendre les langues de ce pays, les coutumes de ces pays, et de faire les relations, déjà dans le milieu chrétien, pour justement refaire l'unité de l'Église. C'est très important de le dire. Donc les Dominicains sont allés à Terre Sainte parce que ça fait partie d'une politique générale qui va se créer à ce moment-là, et c'est d'apprendre les coutumes et les lois du pays. Qui fait que vous avez une exposition qui a eu lieu à Paris, aux archives nationales, et qui ont montré des documents, des manuscrits très anciens d'Irak. Vous avez peut-être entendu parler de telle ou telle conférence, de tel frère irakien, ou qui ont sauvegardé, avec certaines écoles de bénédictins qui avaient appris à scanner les documents, de protéger, à cause de la crise actuelle, de la dévastation, des manuscrits, et en tout cas d'en faire les reproductions. Ce qui veut dire que très tôt, et vous avez ces manuscrits donc au couvent Saint-Jacques qui sont partis aux archives nationales, certains se trouvent donc aussi aux archives du Vatican. Mais pour vous dire que le témoignage que je veux donner des Dominicains, c'est aussi l'Église des chrétiens en Orient, pour dire que nous sommes une religion orientale. Parce que quelquefois, lorsque des pèlerins arrivent, disent « Mais comment vous êtes arabes ? Ah, mais alors quand c'est que vous êtes convertis, vous êtes devenus chrétiens ?» Et moi, je voyais telle ou telle vieille personne à Jérusalem ou syrienne qui a dit « Comment nous sommes convertis ? Mais c'est nous qui sommes allés vous convertir, qui avons apporté le christianisme. » mais non, c'est chez nous, la France, tout ça, c'est catholique. » Et Saint Paul, disent les gens du pays, d'où est Saint Paul ? Il est bien de Damas. Alors vous voyez, c'est une manière, n'est-ce pas, dans cet échange, de voir que le christianisme est né donc, au Moyen-Orient, en particulier en Terre Sainte, et que ce soit Nazareth, l'Annonciation, Bethléem, la Nativité, Jérusalem, le lieu où Jésus est venu, où lui-même sera arrêté, devra mourir sur la croix, ressuscité, et en même temps le lieu de la Pentecôte. Donc pour vous dire, ce sont les lieux pour nous, et je peux vous le dire dans le témoignage des chrétiens de Jérusalem, n'est-ce pas, qui sont là depuis plusieurs siècles, que quand on parle de la première communauté chrétienne, c'est pas une archéologie à laquelle on se réfère, c'est de dire que d'une première communauté des disciples et des apôtres où il y avait Jésus, cette foi est partie dans le monde entier. Et que même si les chrétiens ne sont pas nombreux et deviennent moins nombreux, ils doivent essayer de vivre avec humilité et simplicité ou pauvreté ce témoignage de l'Évangile. Et ça, je peux vous dire que c'est très très fort dans la population et même chez les jeunes qui sont engagés de manière chrétienne. Je vous dirais que c'est ce que j'ai découvert en allant là-bas, parce que moi-même je m'étais rendu à l'âge de 18 ans avec un sac sur le dos en 1971, travaillé dans des kibboutz, et puis j'avais rencontré des amis arabes et puis melkites, etc. Et par là, j'ai pu arpenter le pays, dans un pays, si vous voulez, comme c'était après les années donc 67, lorsque donc Israël a pris l'ensemble des territoires et où Jérusalem, la partie ancienne de Jérusalem, la vieille ville, n'était plus Jordanie, mais devenait de toute façon territoire international depuis 1948-49. Mais c'était important de voir qu'on pouvait circuler où on voulait et on pouvait voir justement quelque chose qui pourrait être unique et que j'ai vécu en ayant 18-19 ans. Et puis quelquefois je suis retourné et on a vu qu'au contraire ça n'a pas été les facilités. Et puis je suis allé après la première intifada et puis je me suis retrouvé supérieur. Se retrouver supérieur du jour au lendemain, n'est-ce pas, où on reçoit sur son mobile de la part de l'assistant du maître de l'ordre, la communauté de Jérusalem des Dominicains t'a élu prieur, tu as 5 jours pour répondre, quel est le numéro fax à côté de toi, et pour après signer le document en disant oui ou non. Alors à ce moment-là, je travaillais à Nice à la cathédrale, et j'étais bras droit du vicaire général qui était le recteur de la cathédrale, qui m'a dit « Mais écoute, c'est quand même un service important qui t'est demandé, et avec l'évêque de Nice, j'ai rompu mon contrat de 5 ans à la cathédrale pour partir du jour au lendemain à Jérusalem. Et à ce moment-là, en arrivant au couvent Saint-Étienne, l'école biblique, c'est de dire, je ne dois pas avoir de préjugés en tête, je suis au service d'un couvent qui est en même temps une école biblique et archéologique qui a une histoire dans le pays, qui a vécu plusieurs, péripéties de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui. Et donc mon rôle est de servir le couvent et de servir l'église de Terre Sainte et aussi le pays. Et c'est ainsi que je me suis rendu très vite chez le patriarche qui était Monseigneur Saba, d'aller voir le custode qui vient de terminer son temps, qui était Pitsabal, et puis d'aller voir le secrétaire de la conférence épiscopale, Interrite, puisqu'il y a plusieurs confessions rites catholiques, et là, eh bien, de dire, c'est d'être au service du pays et de pouvoir œuvrer, et que les Dominicains, nous avons une histoire, mais c'est parmi non seulement les chrétiens, mais aussi l'histoire du pays. Et cela m'a servi beaucoup de ne pas avoir de préjugés, parce que ça a été de pénétrer dans la communauté, évidemment, latine, et puis après de faire connaissance avec d'autres communautés chrétiennes, et puis très vite de faire connaissance avec la ville, parce que si vous voyez la vieille ville de Jérusalem, en gros dans les habitants, ça fait quelque chose qui est dans les 33 000, ou admettons, disons qu'on peut aller presque à 100 000, n'est-ce pas? Mais si vous prenez la portion de la vieille ville avec les quartiers, c'est quelque chose qui est dans les 30 000. Et le quartier où nous sommes, comme on vous l'a dit, nous sommes à côté de la porte de Damas, qui est en fait la plus belle porte, on pourrait dire, des murailles de la vieille ville. Nous sommes à 300 mètres. Notre rue est chrétienne, mais dès que nous allons dans le quartier, la grande partie du quartier, donc, est musulman. Et je peux vous dire qu'en rentrant dans la vie de tous les jours, ça a été de voir que, en fait, les uns ou les autres, eh bien, nous vivions en symbiose et en bonne relation, et que même dans la vieille ville, eh bien, c'était de faire connaissance, de savoir se situer, et par là, eh bien, de vivre ces vies quotidiennes. Il faut dire que quand je suis allé là-bas, les pèlerinages allaient commencer à reprendre, parce que l'hiver, quand j'étais élu au mois de décembre, il y avait très peu de pèlerins, ce qui m'a permis de connaître les gens qui étaient dans les souks et les familles qui étaient dans la vieille ville. Ce qui est important, pourquoi les Dominicains sont-ils revenus après cette présence au Moyen-Âge? Il se trouve qu'à la fin de l'Empire ottoman, il y a une ouverture sur l'ensemble de l'Empire ottoman, à ce qui est les différentes cultures, et donc on pourrait dire aussi à l'Occident, et donc aussi aux chrétiens. C'est ainsi que des communautés vont se rendre, je dis bien, en Proche-Orient, pas seulement en Terre Sainte, pour créer des hôpitaux, pour créer des écoles, et puis, comme les gens voyagent, l'Europe est très intéressée par l'Empire grec, et donc par l'Empire d'Alexandre, et donc ça veut dire que nous avons toute une partie qui va aller jusque vers l'Iran, l'Irak, l'Égypte, et donc il y a tout un engouement par la culture, et donc les relations. Et ça c'est très important, parce que lorsque nous arrivons et nous voyons que des communautés commencent à s'installer, les trois frères qui accompagnaient un voyage, on pourrait dire, de 2000 personnes à Jérusalem, on dit, mais nous devons être présents à Jérusalem. Nous devons revenir à Jérusalem. Et c'est ainsi que le père Matthieu, qui était grand prédicateur, va aller voir le maître de l'ordre à Rome. Il faut savoir qu'il y a eu la Révolution. En 1880, expulsion de France. Donc, on va voir le maître de l'ordre en 1881, vous voyez, 82, alors qu'il y a eu des expulsions auparavant, et on dit qu'on veut créer une communauté à Jérusalem, alors qu'il faut recréer encore des communautés en France. Mais il y a toute une aspiration, et là, à ce moment-là, nous allons venir pour dire, eh bien, le père Lecomte dit, il y a plusieurs possibilités de terrain, mais nous avons entendu parler d'une terre qui est Saint-Étienne, qui a été, dans le passé, une basilique importante pour le culte de Saint-Étienne, aux portes de la porte de Damas, tout près de la porte de Damas. Et c'est intéressant parce que de vouloir remettre à jour un site qui est né au moment de l'Empire byzantin, vers l'an 400, qui était un des plus grands monastères à Jérusalem. Il a compté peut-être à un moment donné, lorsqu'il y a eu les pourparlers du concile de Chalcédoine, on dit qu'il y avait 2000 ou 3000 moines qui étaient réunis. Mais un monastère, c'est pas le monastère comme vous avez avec le cloître, c'est, si vous voulez, des villages, n'est-ce pas, des maisons avec une église centrale. Et là, c'est de dire, il faut trouver le lieu. Donc c'est acheter le terrain, mais le faire acheter, parce qu'il ne faut pas y avoir de la suspicion, donc par un prête-main d'un homme, d'un Français qui était là-bas, faire acheter 4 parcelles de terrain aux orthodoxes, et chez le consul général de France, à ce moment-là, eh bien, de faire la transmission de la propriété et de chercher le monastère byzantin. Il y avait une chapelle qui datait du Moyen-Âge, qui s'appelait Saint-Étienne. On pouvait dire que c'est peut-être la base de cette chapelle, mais en fait, on va creuser 8 mètres et on va trouver des mosaïques et une grande étendue de mosaïques, de telle façon que les pères, avec les bédouins qui sont là et les arabes, vont dire, mais peut-être que c'est un palais. Alors on continue la recherche et on s'aperçoit que 8 mètres en dessous, nous sommes sur les bases de la basilique de l'an 400. Alors à ce moment-là, ça a été de mettre à jour toute cette basilique et l'atrium, qui est comme un cloître, si vous voulez, avant l'entrée de la basilique. C'est d'en faire part au pape Léon XIII et de dire qu'à ce moment-là, ça va être d'avoir une originalité. Plusieurs communautés chrétiennes viennent pour accueillir d'Allemagne, d'Autriche, de différents pays, hein, la Russie, beaucoup d'hôtelleries sont là pour les pèlerins. Mais les pères vont dire, ça va être d'accueillir plutôt des prêtres qui pourraient venir 1 ou 2 mois et Bible en main, aller sur le terrain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est peut-être courant, pour l'époque c'est quand même original. C'était d'avoir une particularité. Et ça a été donc de dire, il faut donc pourvoir à faire le couvent. Le père Mathieu de Durand, le père Mathieu, l'hiver, venait en France pour faire des prédications, chercher de l'argent, parce que tout ça coûte cher, vouloir faire des recherches, vouloir construire un couvent, et en même temps, ça veut dire retourner l'été, continuer les recherches et commencer les constructions. Et lui-même, de par le fait qu'il a donné beaucoup d'énergie, il est mort subitement, qui fait qu'il avait un confrère prêtre dominicain et 3 frères convers dominicains. Le frère convert dit, ou nous cessons tout, on laisse tomber, ou alors nous créons une université. C'est là où passe l'abbé Vigouroux. L'abbé Vigouroux, qui est un sulpicien, qui est professeur au séminaire Saint-Sulpice, et qui a créé une chaire de Bible. Parce qu'on faisait de l'histoire sainte avant. Tandis que là, c'est des cours bibliques. Et cette chaire, il va la mener dans Paris. Il va commencer un dictionnaire biblique sur les monuments, les fleurs, les plantes, etc., les gens du pays, les coutumes, Donc lui-même doit se rendre, au Moyen-Orient pour poursuivre, faire son dictionnaire, l'approfondir et voir le pays. Il voit les frères dominicains qui sont là avec la recherche de la basilique Saint-Étienne, dont ils ont trouvé les bases, et il leur dit, mais pourquoi ne faites-vous pas une institution comme l'école pratique des hautes études qui avait été créée à Paris et qui, justement, s'intéresse à tout le monde oriental. Et c'est là, à ce moment-là, que le père Meunier, qui est donc le compagnon du père Mathieu Lecomte, qui vient de décéder, va demander au maître de l'ordre de créer une université. Le maître de l'ordre dit « Je viens de créer une université à Fribourg pour la philosophie et la théologie. Quand on est parti à la Révolution, on restaure les Dominicains en France. En 1880, il y a 2-3 ans, on est mis à la porte, on reprend encore des couvents, on refait des couvents. J'ai autre chose à faire que de vous aider à faire une université à Jérusalem. Écrivez aux provinciaux. » Et le provincial de Toulouse va dire « Eh bien, nous-mêmes, nous pensions faire un institut biblique à Toulouse, un institut de langue orientale pour apprendre les connaissances des civilisations orientales, moyen-orientales. » Eh bien, à ce moment-là, le père Lagrange, qui a été envoyé à Vienne, en Autriche, et qui finit ses études de langue, par le même courrier où moi je vous réponds, j'envoie la lettre comme quoi lui-même doit se rendre à Jérusalem. Et si vous voulez, c'est comme cela que, sans l'avoir voulu, le père Lagrange est venu voir le pays, mais il avait répondu au provincial de Toulouse, « Comment voulez-vous que j'aille dans un pays chaud, il n'y a pas de bibliothèque, alors qu'on devait faire un institut à Toulouse, où c'est quand même beaucoup plus civilisé ?» Et avec beaucoup plus de lieux de culture, avec des bibliothèques. Il vient dans le père séjourné, un prêtre diocésain qui devenait dominicain parce qu'il était ami du père Lecomte et qui a dit « Il faut que nous engageons à Jérusalem ». Le père séjourné lui dit « Vous devez venir voir Jérusalem ». Le père Lagrange vient et il dit « Il n'y a pas seulement le livre, il y a aussi la terre et le pays. » Il retourne pour finir ses séjours à Vienne et il se trouve qu'une loi en France va dire que les jeunes de 18 ans qui partiront d'Europe pendant 10 ans, ne reviendront pas avant 10 ans, ne feront pas les 3 ans de service militaire en France. En France, les Dominicains ont des novices et des étudiants. Ils envoient les novices et les étudiants à Jérusalem. Comme notre cycle fait à peu près 8 ans, ça fait 10 ans. Et au lieu de faire du service militaire en France pendant 3 ans, eh bien, voilà qu'ils feront des études. D'où apprentissage des études de langue orientale, de l'arabe, du sumérien, si vous voulez, de la... des différentes langues, ça sera aussi le syriaque, le chaldéen, enfin, voyez, toutes les langues utiles. Et c'est ainsi que, quand le père Lagrange va venir définitivement à Jérusalem, il se trouve en présence des étudiants qui sont déjà là. Et c'est ainsi que la première génération des étudiants vont donner les chercheurs et professeurs autour du père Lagrange pour l'école biblique. Alors, c'est peut-être un petit peu long, mais c'est important de voir ces relations, n'est-ce pas, en cette fin de l'Empire ottoman, et de voir comment va être créée une école spécialisée dans les langues orientales, dans les civilisations du Moyen-Orient, et en même temps un aspect biblique. Mais, comme disait l'abbé Vigouroux, c'est l'école pratique. Pourquoi ? Parce que vous, les Dominicains, vous avez commencé à rechercher le lieu de la basilique. On a commencé à faire de l'archéologie. Et faire donc de la pratique, c'est l'archéologie. C'est étudier aussi les langues pour déchiffrer les choses que l'on trouve et pouvoir lire des documents. pour pouvoir interpréter après les lieux. Alors c'est ainsi que l'école s'appellera l'école pratique des hautes études bibliques, parce que la pratique c'est l'archéologie. Alors voilà comment a commencé l'école et comment, par exemple, un des élèves qui sera éminent et sera connu, c'est le cardinal Tisserand. C'est là où il a appris les langues orientales et où lui-même, en étant après à la bibliothèque du Vatican et aux archives, va se donner à toutes les langues orientales et notamment aux différentes confessions chrétiennes, n'est-ce pas, et aux traductions des rites qu'il y a au Proche-Orient. Dans les premières générations, c'est important de voir que nous allons avoir des personnes qui sont assez éminentes. Ces personnes vont être par exemple le père Jossin. Le père Jossin, qui s'est vraiment mis à l'arabe, va lui-même, avec le père Savignac, se donner aux tribus bédouines. Ils vont prendre des dromadaires, ils seront habillés à la manière bédouine et ils vont aller à travers le Proche-Orient, de tribu en tribu, noter les choses, parce que les bédouins très peu écrivent, et noter toutes les traditions, les lois, vous voyez, tout ce qui est dans ce monde-là. Et donc, c'est là où ils ont vu qu'il y avait des tribus bédouines à Madaba, c'est-à-dire en Jordanie, qui était chrétienne depuis l'origine. Vous avez le patriarche actuel, Monseigneur le Fouad Toual, sa béatitude Fouad Toual, qui est de la tribu bédouine de Madaba, qui est une des premières tribus chrétiennes depuis plus de 1500 ans. C'est-à-dire que du syriaque a été traduit en arabe la Bible et la liturgie, et que de ces tribus, n'est-ce pas, s'est répandu le christianisme. Ce qui veut dire que c'est quand même 2 siècles avant Mahomet. Donc la tradition arabe, la culture arabe est d'abord chrétienne. Et non pas de dire, dans les milieux arabes, finalement on est allé évangéliser pour qu'il y ait des chrétiens. Non. Donc eux-mêmes sont allés dans les tribus chrétiennes et les tribus, donc musulmanes, apprendre cela, et lorsque Petra va être trouvée, eux-mêmes vont partir avec des pères de l'école biblique pour aller à Petra avec les bédouins et avec les barres de tente, n'est-ce pas, qui sont comme des petites poutrelles. Et bien dans la journée ça fera des échelles pour monter sur les falaises et par là essayer de prendre toutes les inscriptions pour après à l'école biblique pour voir les interpréter. Or, Petra est un lieu nabatéen très important, de civilisation donc avant le Christ et après le Christ, jusqu'à l'Empire byzantin, où se faisait ce transport de Gaza jusqu'aux Indes. Donc ça veut dire que Petra était un des lieux, n'est-ce pas, de carrefour important. Et qu'il y a, pour ceux qui ont peut-être visité ou entendu parler, Petra, vous avez toutes les couches, n'est-ce pas, de différentes époques et de civilisations, et notamment après l'époque byzantine. Si vous allez dans le Néguev, vous avez des sites de villes qui sont engloutis dans le sable, qui sont entièrement chrétiennes, avec des églises ou des monastères. Alors, le fait qu'on soit à l'école biblique ou avec les franciscains, on avait l'occasion de faire des expéditions et aller visiter ces lieux qui partent de Gaza et qui traversent comme ça jusqu'en Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak, etc. Alors les frères dominicains se sont donnés à ce travail. Et aussi pour apprendre, parce qu'à Bagdad nous avions aussi un couvent et des pères sont allés dans le nord de l'Irak pour tout avoir les transcriptions de tous les sites. Ce qu'on appelle un temple, ça ne veut pas dire seulement un temple comme on dit ici l'église, ça veut dire que c'est un lieu d'ensemble où parfois il y aura le bâtiment du roi, la population, et où tout est articulé par rapport à la civilisation, à la culture, selon un droit. Alors, les pères vont faire énormément de retrouvailles, de petites briques où tout est écrit, de les traduire, ce qui permet après, comme à Babylone aussi, de pouvoir traduire des textes, où on a de nombreux textes, notamment sur la tour de Babylone, et qui permet d'interpréter la tour de Babel ou par exemple l'arche de Noé, et où on s'aperçoit que les Hébreux qui avaient dû partir de Jérusalem avaient dû s'expatrier, avaient été emmenés, n'est-ce pas, à Babylone, étant dans ce milieu de culture, ont retranscrit ce qu'ils voyaient dans la discussion pourquoi avons-nous perdu la Terre Sainte, pourquoi sommes-nous exilés. Et dans cette réflexion théologique, ils vont prendre le monde ambiant. Ils ne le copient pas, mais ils vont prendre les symboles pour interpréter comment relire l'alliance avec Abraham, avec Noé, etc. Alors les pères vont se donner à ce travail, qui fait que la manière de l'école biblique va être de, par l'archéologie, lire un site qui peut être païen, qui pourra être chrétien, qui pourra être peut-être après israélite, ou qui pourra être musulman, de pouvoir aussi lire des textes qui sont retranscrits après sur des manuscrits, et ensuite c'est de lire des textes de la Bible et de dire qu'est-ce que c'est que nous trouvons qui s'apparente à ces civilisations. Ce qui fait que ça permet de donner une lecture plus exacte en essayant de voir, n'est-ce pas, ce qui était donné dans ce monde que nous on dit païen, mais qui était religieux. Si vous allez au Liban, vous verrez que 2-3 000 ans avant le Christ, il y a toute une civilisation de l'écriture et de la grammaire, et que tout cela sert au monde de la pensée et donc aussi à l'interprétation. Parce que ça veut dire que si vers l'an 1000 vous avez, ou 800, vous avez David à Jérusalem, eh bien 1500 ans ou 2000 ans avant, vous aviez déjà tous des lieux de culture de l'Égypte, ce qu'on appelle le Liban et la Syrie et l'Irak. Donc les pères vont se donner à toute cette culture. Comme le père Lagrange va partir en expédition au Sinaï avec des pères sur un âne, et quand on reprend des textes, il dit, mais on nous dit qu'il y a 100 000 personnes. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait 100 000 personnes sur ce lieu. Il peut y en avoir que 700, 800. Donc nous devons lire la Bible d'une autre façon. Alors voilà comment l'école biblique et archéologique, hein, par les lieux, va faire des notes, va faire paraître la revue biblique à partir à peu près de 1800, peut-être 90 ou 92, n'est-ce pas, ce sera la première revue biblique, pour avoir des échanges avec d'autres pays dans les revues, édifier une bibliothèque à Jérusalem dans toutes les langues, et arriver à aujourd'hui à la seule bibliothèque qui soit pour l'archéologie, pour l'histoire des civilisations et le milieu biblique en Proche-Orient ou Moyen-Orient. C'est pour cela que c'est devenu une institution très importante à partir du terrain. Mais ce qui est important, c'est à partir d'hommes qui étaient religieux, qui se sont rendus là-bas pour vivre au pays de Jésus avec la population chrétienne, et qui, par les événements, se sont donnés, eh bien, à l'histoire des civilisations, à l'histoire, comme je vous disais, des tribus, par exemple bédouines, qui permettaient de pouvoir comprendre certains éléments, puisque en étant, il n'y avait pas de voiture, on était sur dos d'âne ou à dos de chameau, comprendre un peu tout le style de vie qu'il y avait, n'est-ce pas, dans l'Antiquité. Donc, c'est là que va naître la Bible de Jérusalem. Parce que le père Choufflot, qui est aux éditions du Cerf, va dire, au moment de la guerre, comment se fait-il que vous avez toutes ces notes sur les civilisations, sur la Bible? Pourquoi ne faites-vous pas, livre par livre, eh bien, une traduction avec des notes scientifiques, des notes pastorales, et de faire les liens entre les livres? Et volume par volume, avec des exégètes, avec des prêtres, avec pas que des dominicains, parce qu'on n'aurait pas été assez nombreux, ça a été à travers la France ou la francophonie, de faire paraître l'ensemble de la Bible de Jérusalem. Qui fait qu'en 1955, l'ensemble de ces volumes vont être mis en un gros volume, avec introduction au livre, les notes que vous avez en bas pour dire la différence entre l'hébreu et le texte grec, et ensuite d'avoir aussi des notes de compréhension spirituelle ou pastorale. Et ces notes, ces introductions, sont revues à peu près tous les 10 ans ou 20 ans pour justement les accorder en fonction des recherches que nous avons. Mais sachez que la foi n'est pas remise en question, parce que dans la tradition de l'école biblique de Jérusalem, et notamment avec le père Lagrange et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que dit l'Église: la Bible est un donné révélé, et donc c'est une théologie, c'est une vie à travers l'expérience d'un peuple qui vit sur plusieurs siècles et jusqu'à Jésus-Christ, n'est-ce pas, les apôtres, avec les différentes communautés chrétiennes qui vont grandir, qui vont être de différentes cultures, notamment le grec, qui depuis 3 siècles avant le Christ était la culture de tout l'Empire, hein. Et c'est pour cela que le christianisme, avec le grec, va aussi justement pouvoir se réaliser, avec la pensée grecque notamment et l'école d'Alexandrie. Et c'est là où notre attitude aujourd'hui est de dire: nous avons fait la Bible de Jérusalem qui est connue, beaucoup ont vu le volume Bible de Jérusalem, où les éditions sont revues à mesure pour expliciter mieux la compréhension du texte et la théologie qui est donnée, hein, le donné révélé. Mais aujourd'hui, ça a été de dire, avec Internet, nous devions reprendre les choses d'une autre façon. Alors, c'est aujourd'hui de reprendre tous les textes des églises et des textes anciens, géorgiens, coptes, arméniens, éthiopiens, syriaques, chaldéens, et j'en passe, la Septante en grec, mais il y a d'autres versions grecques, en tout cas textes grecs que nous avons, et nous avons eu aussi Qumran. Parce que quand Qumran a été découvert, c'était la Jordanie. Étant donné que nous travaillons, nous, avec Amman, puisque nous étions en Jordanie, la partie de Jérusalem-Est, la vieille ville, eh bien, nous avons donc travaillé l'archéologie et donc les textes de Qumran. Et nous avons fait l'édition de ces textes qui aujourd'hui sont, pour ainsi dire, terminés. À Qumran, il y a des textes à la fois de comptabilité, très matériels, mais aussi des livres bibliques. Qui fait que si vous avez la version d'Isaïe en version grecque dans les 70, et une version plus longue en hébreu, eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'à Qumran, 2-3 siècles avant le Christ, vous avez la version longue et la version courte, la version courte des 70 et la version longue du texte en hébreu. Alors on va dire, ah mais c'est épouvantable, mais non, parce que la canonicité des Écritures date d'un siècle après le Christ pour les Juifs, pour les Israélites, et qu'à Qumran, on se servait des textes en fonction de ce qu'on voulait donner, interpréter, la version courte ou la version longue. Et dans Jérémie, vous allez avoir une version dans la Septante qui s'adresse à l'univers. C'est universel, la mission. Le temple, les prêtres vont faire revoir le texte hébreu, voyant que le texte grec va à l'universel, pour dire « c'est Jérusalem ». Alors vous voyez, déjà là, il va y avoir une interprétation à la suite de Jérémie entre ce qui est Jérusalem et tout le monde juif hellénistique à travers donc l'Empire. Cela pour vous dire que nous voulons travailler l'ensemble de ces textes à travers, avec des gens du monde entier, au point de vue savant, et ce sera de donner après eh bien, des notes ou des introductions qui vont aider à la lecture, n'est-ce pas, de la Bible. Mais l'école biblique, le couvent Saint-Étienne plutôt, qui est la base de l'institution où se trouve l'école biblique, n'a pas seulement comme rôle l'école biblique et l'archéologie, c'est aussi les contacts avec la population, avec les communautés chrétiennes par exemple. Et lorsque je suis arrivé, en ayant contact avec pas seulement avec les communautés interrites catholiques, mais aussi avec les orthodoxes, avec les arméniens, avec les coptes, les éthiopiens, eh bien, comme nous sommes une église en dehors des murs, souvent cela facilite pour ces célébrations de pouvoir accueillir des mariages, des funérailles, des baptêmes. Et c'est ainsi que ce rôle nous avons est une plateforme où, si quelqu'un veut par exemple un mariage, les fiancés viennent, on se marie dans le rite donc du fiancé, hein, si le fiancé est de rite latin, c'est-à-dire comme pour nous notre liturgie que nous appelons de Paul VI, ou voilà, le missel que nous avons, eh bien là-bas on dit le rite latin. Et là, à ce moment-là, si la fiancée, par exemple, elle est grecque catholique, eh bien les enfants seront latins. On ira à la messe chez les franciscains, au catéchisme chez les franciscains, etc. Mais les enfants vont grandir. Il y a deux filles. Une se marie avec un luthérien, arabe, donc de haute église, comme les pays scandinaves, mais en langue arabe, hein, puisque depuis un siècle et demi ou deux siècles, il y a les luthériens et les anglicans, arabes. Et donc les parents, pour les fêtes, vont aller aussi chez la fille, aussi, pour voir les enfants, les petits-enfants, qui sont, eux, luthériens, haute église. L'évêque a la mitre, la crosse et tout ça. Hein. Mais ensuite, la deuxième fille va se marier avec un orthodoxe. Alors, la mère, qui est grecque catholique, comme dit Melkite, en fait, va retrouver exactement la même liturgie par sa fille qui se marie avec un orthodoxe et avec les petits-enfants, parce que le rite byzantin, qui est traduit en arabe chez les orthodoxes à Jérusalem et en Moyen-Orient, et pour les grecs catholiques en arabe, c'est la même traduction et les mêmes mélodies, qui fait que la mère Melkite, qui est catholique, en allant chez les enfants lors de la Noël orthodoxe ou de la Pâque orthodoxe, va chanter à toute voix, elle se retrouve dans son rite. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans la population et que vous êtes invité lors de fêtes, de mariages ou au moment d'obsèques, on est toujours en relation entre différents rites où les uns et les autres connaissent les rites, les rites de chacun. Et je vous dirai que cela est très important parce que l'évêque luthérien de Jérusalem, qui est palestinien, qui est de Jérusalem, et qui a été élu il y a à peu près 4-5 ans président du Conseil mondial des luthériens, qui a fait ses études en Scandinavie, qui connaît les pères de l'Église et le Concile Vatican II, eh bien lui-même est marié à son épouse est maronite. Ses enfants sont luthériens évidemment, puisque on prend la confession du père. Mais lorsqu'il m'a invité au baptême de sa petite fille, eh bien il m'a dit de venir dans le chœur, et à ce moment-là je vois le supérieur du séminaire latin de Béjala qui arrive et qui vient dans le chœur. J'ai dit ouf, je suis sauvé, parce que moi je ne connais pas trop les pratiques, n'est-ce pas, à Jérusalem, je suis tout nouveau. Et le supérieur du séminaire, qui n'est pas l'actuel, me dit je suis l'oncle de la maman. Le grand-oncle de la petite fille qui va être baptisée. Et donc, dans la famille qui était là, vous aviez à la fois des maronites, des syriaques catholiques, des syriaques orthodoxes, des luthériens, et tout le monde ensemble à la liturgie, et on sort, et après on prend le verre ensemble, et le gâteau, etc. Et donc pour vous dire que quand je suis allé avec des étudiants de la vieille ville où j'étais invité dans les rencontres, comme on fait dans les universités, donc chrétiennes, et où j'ai découvert que 70% au moins des étudiants ou des étudiantes sont musulmans, eh bien, on avait des cercles de rencontres. Et là, il y a une amitié où on parle normalement, on échange, et même à l'université de Bethléem, on va avoir les coutumes, n'est-ce pas ? Chacun, on va apprendre ce qui est le christianisme, l'histoire des chrétiens et ce qui est le christianisme, ce qui est l'islam et ce qui est le judaïsme. Même si, en fait, Bethléem est coupée par rapport à Israël et que les Israéliens, les Juifs israéliens ne peuvent pas y pénétrer puisque Israël interdit aux Juifs israéliens d'aller à Bethléem, mais on apprend quand même, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que l'histoire et qu'est-ce que c'est que la culture donc juive. Pourquoi ? Parce que ce qui est au fondement, c'est nous devons vivre ensemble. Nous sommes de différentes religions et cultures. Parce que, comme chez nous en France, on peut être catholique sans être grandement pratiquant. On peut être juif sans être pratiquant. On peut être musulman sans être grandement pratiquant. Mais il y a une culture, il y a quelque chose qui fait la vie. Et là-bas, c'est très important de voir cela. Et j'ai été très frappé, comme j'étais secrétaire peut-être 5-6 ans, secrétaire du comité des religieux, et je devais faire les rencontres religieuses sur la Terre Sainte, eh bien c'était très intéressant de voir que dans nos rencontres, puisque nous avions des congrégations enseignantes, d'hôpitaux, après pastorales aussi dans des paroisses, notamment dans le rural, de voir l'attention qu'il y a dans l'éducation de pouvoir se connaître les uns les autres. Car quand on se connaît, eh bien on peut partager la vie ensemble. Et quand on ne se connaît plus, c'est là où c'est terrible. C'est pour cela que le mur qui sépare donc la Palestine d'Israël et qui fait 8 mètres de haut, ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment, si les gens ne se rencontrent plus, on devient plus que des numéros et du coup, ben, on fomente des choses qui n'existent pas. Par exemple, je veux dire, nous on va penser l'Irak, n'est-ce pas ? Avec le Daesh, avec tous les problèmes qu'il y a. Mais l'autre jour est arrivé pour 2 mois le prieur dominicain de Bagdad, qui, devenant français, doit vivre quelques mois en France pour avoir son passeport. Je lui ai dit, ben, parle-moi de Bagdad, parle-moi de la vie courante. Mais il me dit, mais on vit ensemble. On a toujours été ensemble. Ce qu'il y a de terrible, c'est que par l'Occident et par la manière internationale, c'est de mettre des cloisons. L'Irak ou la Syrie était un État laïque, entre guillemets, mais on ne disait jamais, toi tu es sunnite, toi tu es chiite, toi tu es chrétien orthodoxe, tu es chrétien chaldéen, chrétien syriaque. On disait, je suis irakien. Et le fait d'avoir démantelé, et aujourd'hui on penserait de faire un pays un peu comme la Suisse, n'est-ce pas, en fédération, il dit, mais c'est la fin de tout, parce que ce sera des bagarres dans l'avenir, parce que nous avons une culture qui est arabe. Et c'est à travers cette culture arabe que nous-mêmes nous avons grandi. Et connaître la Terre Sainte, c'est cela. Lorsqu'il y a quelques mois, le Parlement israélien voulait changer le nom des chrétiens arabes en disant qu'ils seraient nazaréens ou autres, c'est refusé par les chefs des églises chrétiennes en disant « Nous sommes d'une même culture, il n'y a pas un musulman ou un chrétien, nous sommes de culture arabe ». Et nous avons pendant des siècles partagé cela. Alors, je vais vous dire, on voit toujours aussi la Terre Sainte. C'est vrai qu'il y a des moments durs ou des passages parfois lorsqu'on va à Ramallah et qu'il y a le camp de Candia où souvent il y a des heurts avec l'armée israélienne. Bon, ben évidemment, d'abord, parfois c'est fermé et puis il faut faire des détours s'il y a eu une bagarre à ce moment-là. Mais je vais vous dire, dans la vie courante, on est arrivé et j'ai pu, par la connaissance que j'avais dans les hôpitaux, faire des rencontres de début de vie, de fin de vie, avec des médecins infirmières musulmans, juifs et chrétiens. On avait préparé cela, et ce qui est intéressant, c'est que chacun, en venant exposer par exemple le début de vie, même s'il n'était pas croyant, commençait par parler de l'aspect religieux, pour comprendre quelle était la manière dont on avait ce sens de la vie. Et la fin de vie, la même chose. Et c'était intéressant parce que des imams ou des rabbins étaient là, étaient venus, et on dit, mais est-ce que nos gouvernants, alors là nous parlions du pays là-bas, est-ce que nos gouvernants pourraient comprendre que, en fait, quand nous touchons, n'est-ce pas, par ce qui est le début de vie ou fin de vie, que nous touchons dans le monde de la santé, en fait, on dépasse tous les problèmes, on va au fondement. Alors, je veux vous donner ce témoignage, parce que dans la vie pastorale, par le fait d'avoir pu aller, j'ai commencé par voir des sourds-muets, puis après des handicapés dans la vieille ville, puis par là, par des étudiants, aller en Palestine, aller à Naplouse, aller à Bethléem, rentrer un peu dans les différents lieux. Et bien après, on s'aperçoit qu'en fait, jamais, ou alors une fois, mais jamais j'ai été mal reçu quelque part. Toujours, il y a une attention, parce qu'on demande toujours d'où on vient, qui on est. Et chaque fois, il y a toujours un regard, si vous voulez, bienveillant. Et je voyais notre quartier qui est derrière et en grande partie musulman. Quelqu'un qui est un étranger qui passe, il est un hôte. Et donc, on doit l'accueillir. Et je peux vous dire combien de fois quand je suis arrivé, eh bien, ça a été de me faire asseoir, boire un thé, me faire connaître aux gens, et eux-mêmes faisaient connaissance. Et nous sommes arrivés, ce sera vers la conclusion, encore 5 minutes, c'est que, en étant en lien avec les personnes, vous voyez, de manière quotidienne, et puis de temps en temps, je me faisais le devoir, chaque semaine, de passer dans des quartiers, voir des commerçants, voir des gens, eh bien, au bout d'un moment, comme on partage la même vie, on ne sait pas quel sera l'avenir du pays, eh bien, on est arrivé avec certaines associations à dire, mais pourquoi nous ne ferions pas une sorte de journée dite Nablus Road, c'est la rue, n'est-ce pas, le nom de notre rue, mais par exemple que de Jérusalem-Est, les hôteliers, les gens qui s'occupent de pèlerinage, de voyage, d'agriculture, d'artisanat, le Conservatoire national de Palestine, le théâtre de Palestine, les écoles, pourquoi ne pas faire des stands chez vous dans le jardin? Je dis, mais c'est génial! Alors, comme on a deux portails, on peut très bien ouvrir un portail, faire un sens, n'est-ce pas, de circulation, et à ce moment-là, ben, vous avez des musulmans, des chrétiens, même des juifs qui vont venir avec des stands, avec des théâtres pour les gamins, avec des expositions de peinture. Vous allez avoir par exemple des femmes voilées qui ont la peinture mais qui sont ouvertes d'un point de vue culturel, etc. Par exemple, à l'université Al-Quds, qui est l'université islamique au centre de Jérusalem, et en même temps la plus grande partie de ces bâtiments se trouvent en fait derrière les murs puisqu'ils ne peuvent pas s'agrandir proche des mosquées puisque c'est le souk. Et bien ce qui est intéressant, c'est que dans ces gens, il y a l'histoire de l'art. Et bien des étudiantes musulmanes s'intéressent à l'art byzantin et chrétien, sont venues étudier, et avec nos documents, ce que sont nos mosaïques et comment le mettre, n'est-ce pas, là dans la tradition. Et comme elle voulait prendre des photos, il y avait un peu des poteaux un peu lourds à porter, son frère un peu plus grand est venu, et j'ai découvert que c'était un des moniteurs. Comme les enfants de la vieille ville n'ont pas de lieu pour s'amuser, j'ouvrais le jardin du couvent 2-3 semaines à une organisation ONG palestinienne pour les enfants des rues, musulmans et chrétiens, pour venir s'amuser avec des moniteurs. Eh bien, un des moniteurs, et donc musulman, était là avec sa sœur, venant étudier, n'est-ce pas, l'art chrétien et qu'est-ce que c'est que la théologie chrétienne. Donc pour vous dire, c'est important, lorsque nous avons fait des réunions après avec le consulat général de France, puisqu'on dit que la France, depuis François Ier, est protectrice des lieux saints au Proche-Orient. Et quand on a dit, mais qu'est-ce que la France peut faire ou peut aider, ou en tout cas les communautés chrétiennes, n'est-ce pas, religieuses, qui sont de France, peuvent apporter au pays. Mais on a dit, mais le pays nous apporte et peut apporter à la France la manière dont nous vivons dans une convivialité. Par exemple, l'école biblique va donner des cours à l'université hébraïque. Bon, il y a une section par le cardinal O'Connor, une fondation qui s'est faite, et il y a des cours qui sont donnés. Des cours qui sont donnés par des chrétiens, et donc nous participons, et des rabbins ou des professeurs juifs. Lorsque, par exemple, toute l'esplanade des mosquées avec le mur des lamentations a été étudiée par des chercheurs, à la fois palestiniens, université Al-Quds, à la fois par New York et l'université hébraïque, mais ils ont dit, mais où c'est qu'en Israël ou à Jérusalem, on va pouvoir faire ça? Parce que c'est très compliqué, l'aspect politique. Alors que ces gens, ces chercheurs et ces étudiants ont travaillé tous ensemble. Ils ont dit, c'est l'école biblique. Parce que c'est une plateforme qui n'est pas neutre, puisque nous sommes des religieux, mais où nous pouvons tous ensemble nous rencontrer et faire sortir le livre ensemble, n'est-ce pas, et faire voir la sortie de l'édition. Bien voilà comment nous faisons un travail, n'est-ce pas, qui est, on pourrait dire, de grande haleine, qui traverse les années et les décades, et qui fait que ça rend service pour la population. Et la population connaît cela, parce que les gens aspirent à vivre un jour en paix. Et c'est là où j'ai vu que, quand s'est monté le conservatoire de musique dans le quartier, le conservatoire national de musique palestinien, le théâtre aussi national, c'était des petits groupes qui venaient chez nous se servir de la salle de l'école et quelquefois de la basilique. Et un jour, j'étais invité à l'inauguration du conservatoire national de Palestine. Et alors voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que les groupes qui venaient ont constitué avec des Autrichiens et avec tel ou tel aussi professeur juif allemand et aussi avec la France, eh bien, de donner des cours. Et pour le théâtre, la même chose. Et quand vous avez des enfants qui commencent tout petits à faire du violon et même des gens de famille pauvre, eh bien, c'est là où vous voyez que la culture est vraiment un lieu pour dépasser, n'est-ce pas, ce qui fait les affrontements, mais au contraire nous connaître. Mais là-bas, on ne peut, quand on parle de culture, on touche automatiquement au christianisme, à l'islam, au judaïsme, et puis vous avez après des gens qui sont athées, mais qui finalement doivent se déterminer. Ils disent, ben moi je suis athée, mais j'aime aussi aller dans ces courants-là. Et ça, on a un apport qui est énorme, parce qu'il y a une richesse, n'est-ce pas, sur une ville comme Jérusalem, mais aussi, quand vous voyez la Terre Sainte, un tout petit pays, mais d'une richesse d'échange qui est fabuleuse. Et c'est ce qu'il faut faire connaître. Et ce qu'il faut faire connaître aussi pour que, on pourrait dire, nos gens politiques fassent vraiment la politique qui est le service de l'humanité, qui est le service des gens. Et que la culture est vraiment un lieu qu'on approfondit, mais que aussi ceux qui ont une religion doivent pouvoir aussi, eh bien, la vivre et la partager. Au Ramadan, j'étais toujours invité au Ramadan, même le soir, lorsque tous les gens sortaient à minuit, 2 heures, et rentraient après vers les territoires en Palestine, eh bien, c'était de partager ensemble un thé, etc. Comme nous, au moment de Pâques, partager le café et un gâteau. Vous voyez, c'est cette convivialité où on construit ensemble un pays. Et cela est très important pour nous, en France et en Europe, on pourrait dire en Occident, de dire, vivons une culture qui n'est pas de reculer et de vouloir trouver en arrière, mais fort de notre culture qui vient de loin aujourd'hui, comment ensemble pouvoir partager, communiquer et construire, mais construire dans un monde d'amour. Et je peux vous dire que des communautés, je connais même des jeunes musulmans qui m'écrivent, et même des jeunes juifs qui vivent cela, qui veulent, ils voient que c'est par une amitié, par une vie, qu'on peut aller à ce qui est fondamental pour l'avenir. Et c'est peut-être par ces petites... Vous voyez, moi j'ai vu, j'avais fait une sorte de petite association pour aider tel étudiant, ou quand je voulais aller à Ramallah ou à tel endroit, ça me permettait d'avoir un pied à terre et d'avoir des liens, puis d'avoir une constance, vous voyez, que les choses continuent. Eh bien, je vais vous dire, on s'aperçoit qu'il y a tout un tissu qui se fait à travers un étudiant à qui on va chercher une bourse pour la Belgique ou pour la Suisse. Eh bien, c'est 1000 personnes que vous allez avoir. Parce que c'est le quartier, c'est la famille, c'est les autres étudiants, c'est tous les gens qui après auront du travail ou n'en auront pas. Eh bien, c'est là où on voit que c'est tout un tissu. Alors, le travail que font les chevaliers, c'est ce que je vais lire, et c'est ce que je disais déjà quand j'étais en Terre Sainte. Je peux vous dire une chose, sans les chevaliers du Saint-Sépulcre, les diocèses de Terre Sainte, donc la catholique, ne pourraient pas vivre, parce que 90%, pour ne pas dire 95% de ceux qui permettent les écoles du patriarcat, les hôpitaux, tout ce qu'il y a, les paroisses rurales et tout ça, les séminaires, etc., c'est par cette aide qu'il y a. Mais cette aide, il faut le voir aussi, c'est par ces liens de pèlerinage, par ces contacts que l'on a. Même si vous ne restez pas longtemps avec la population, vous savez, c'est un oxygène que vous apportez. C'est une espérance qu'on apporte aux gens. Et ça, je l'ai touché de très près du fait que moi-même, vivant avec les gens, j'étais avec eux pour voir comment les choses pouvaient se faire. Alors voilà comment, un peu, si vous voulez, il y aurait eu d'autres choses à faire, mais vous savez, on ne peut pas tout traiter, mais je voulais vous faire toucher l'histoire des Dominicains ou comment a été l'école biblique, qui est un service universel de la Bible et de la culture et des civilisations, puisqu'on travaille avec des juifs, des musulmans et des athées, des agnostiques, et par le fait de la qualité de la recherche et des échanges, mais aussi de vous faire toucher comment on touche le quotidien et comment, au fond, nous-mêmes, nous partageons le sort de la vie des gens qui sont là, puisque nous avons plus de 130 ans de vie, plus de 125 ans d'expérience pour l'école biblique et archéologique. Parler d'archéologie, c'est être au milieu des gens sur des terrains, dans le monde rural, et donc connaître les populations. Eh bien, je peux vous dire que c'est de faire partie d'un pays et de dire que nous sommes chez nous, en Terre Sainte, et en même temps, nous avons beaucoup à apprendre, malgré les difficultés du pays, pour nous, parce que nous-mêmes, nous traversons des difficultés, nous ne savons pas du tout où nous allons, mais il y a des valeurs essentielles que nous pouvons échanger entre communautés chrétiennes et autres, interreligieuses, et qu'ils peuvent nous apporter pour nous, pour aller de l'avant et savoir vivre pour nous de ce regard de Dieu, et aussi que dans la société, eh bien, il y a un mieux-être. Mais le mieux-être, c'est l'amitié. Et quand il y a une amitié, une attention, un regard qui se porte, eh bien, le monde est changé. Voilà ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui.
Merci pour Martini, quel voyage vous pouvez marquer avec les 800 ans de l'ordre faire prêcheur et aboutir à ces échanges culturels et religieux. C'est passionnant, un grand merci. Tout de suite, je laisse la parole à notre responsable de commanderie, Xavier Gessard, qui va vous faire une petite information sur notre ordre. Certains ont dû beaucoup bouger, c'est dommage. Je ne vois pas bien ce que je pourrais vous dire d'intelligent.
après avoir entendu le Père Tardy parler de l'œuvre de l'ordre du Saint-Sépulcre en Orient en général et dans le diocèse de Jérusalem aussi. Merci mon Père de ce témoignage que vous nous rendez, mais mon remerciement sera peut-être un petit peu plus personnel, puisque je suis rentré dans l'ordre adoubé par le cardinal Tisserand. Merci de nous avoir apporté une bouffée du maire de Jérusalem. Cet endroit dans lequel tout chrétien qui peut faire doit aller. Parce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a un avant et il y a un après Jérusalem. On ne revient jamais de Jérusalem aussi pauvre qu'on y est arrivé. Et à chaque fois qu'on retourne à Jérusalem, à l'aller, on se dit « qu'est-ce que je vais retrouver que je connais déjà ?» Et au retour, on constate qu'on y a redécouvert tout un tas de choses à côté desquelles on était passé. Ce qui vous donne envie d'y retourner encore. Parce que dans cette terre extraordinairement incarnée, dans laquelle depuis des milliers d'années, les hommes se battent, sans trop savoir pourquoi. Si je voulais parodier Astérix, ce serait l'âme des figatelles. Il y a la présence vivante de Dieu sur la terre qu'il l'a vue vivre, qui transcende la totalité des divisions que les hommes peuvent inventer. Et quand on revient de Jérusalem, on en revient unis.
Je crois.
Il n'en reste pas moins qu'il y a à Jérusalem des gens qui y vivent et qui sont chrétiens dans une tradition bien plus ancienne que la nôtre. Je vous souhaite le jour de faire ce pèlerinage absolument fabuleux qui part du Sinaï, qui remonte par la côte jordanienne du Jourdain, longe la mer Morte, arrive au lieu du baptême du Christ, traverse et rejoint ensuite par les différents lieux de l'annonce de l'Évangile, rejoint Jérusalem de la Passion et de la Résurrection. Nous avons le privilège exceptionnel de porter sur nos manteaux de cœur deux couleurs. Nous portons le signe de la croix et des quatre croisettes, symbolisant, suivant une certaine tradition, les cinq têtes de Christ, non pas dorées, comme le veut la tradition héraldique de Jérusalem, qui l'or étant le signe de la présence de Dieu, mais rouge, pour symboliser la passion de Christ. Mais ce signe de la passion de Christ, nous le portons sur un manteau blanc, signe de la résurrection de Christ. Et donc, la spiritualité de l'ordre de Jérusalem, de l'ordre de Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est la passion et la résurrection. Nous sommes jusque dans nos propres tombeaux les témoins de la passion et de la résurrection de Christ. Et c'est à cela que d'une manière complètement irrémédiable, nous avons attaché nos vies chrétiennes. C'est un privilège auquel on peut être appelé, dont on peut avoir envie, et que nous partageons. Nous sommes entre 22 et 25 000 sur la surface de la Terre, dont entre eux, suivant des époques 850 à 950 chevaliers en France. Cet ordre, remanié par le pape en 1847, s'est vu confier d'une manière institutionnelle, statutaire, la mission de soutenir non seulement matériellement, mais par la constance de la prière, la présence catholique latine en Terre Sainte. Et donc, comme vous l'avez merveilleusement dit, nous assurons une partie importante des frais de fonctionnement et d'investissement du diocèse latin de Jérusalem, qui couvre Israël, la Palestine, la Jordanie et Chypre. C'est pas rien. Si vous relisez saint Paul, ça fait un certain nombre de voyages qui peuvent rester dangereux. C'est une diversité de cultures. C'est une multiplicité de races, tous réunis dans la contemplation de la présence vivante de Dieu sur la terre. Et parmi les œuvres importantes du diocèse de Jérusalem, je voudrais attirer tout particulièrement votre attention ce soir sur le séminaire de Beth Shalom dont nous avons parlé. Le séminaire de Beth Shalom, c'est actuellement une petite cinquantaine d'élèves du petit séminaire qui suit les cinq premières années de scolarité. Et c'est entre 25 et 30 élèves au grand séminaire qui suivent les 9 années d'études. Je veux savoir ce que c'est pour un Jordanien de dire oui à l'appel du Christ. Il vient à Beth Shalom étudier et suivre les cours du séminaire. Et pour avoir accompagné l'un d'entre eux, puisque ça fait aussi partie des choses que nous pouvons faire, pour avoir accompagné l'un d'entre eux, qui est maintenant curé depuis 6 ans, découvrir qu'il va rester 3 ans à Jérusalem sans pouvoir retourner dans sa famille, parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir revenir pour des questions de visa que les autorités israéliennes auraient pu refuser. Et donc, à quelques kilomètres de ses parents, séparés par un mur de 8 mètres de haut, qui m'interdirait aujourd'hui d'aller depuis le tombeau de Lazare jusqu'à celui du Christ, chose que j'ai fait le jour de mon premier pèlerinage, en 1974, il est resté souvent tout seul pendant les grandes fêtes au séminaire de Beth Shalom parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. C'était une manière de vivre sa fidélité. Ces séminaristes deviennent assez rapidement responsables dans leur paroisse parce que ce sont tous des gens d'une certaine personnalité. Manager, entraîneur, absolument grain, absolument indispensable pour maintenir la présence catholique. Donc, c'est pour les aider d'une manière extrêmement concrète que mes confrères vont maintenant passer dans vos rangs, solliciter votre générosité, et l'argent que nous avons récolté ce soir ira directement à Beth Shalom. pour soutenir la formation des élèves séminaristes du diocèse du patriarche latin de Jérusalem. Si vous voulez des renseignements plus détaillés, plus amples, sur l'ordre du Saint-Sépulcre, sur le diocèse de Jérusalem, sur la présence catholique en Terre Sainte, vous avez cet outil comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses merveilleuses sur Internet, et notamment le site de l'ordre du Saint-Sépulcre, qui vous donnera un certain nombre de renseignements complémentaires. Mais, outre, et je dirais d'abord, avant le soutien matériel, c'est à notre prière à tous qu'est confiée la terre de Christ, ceux qui y habitent. Et ça va faire partie de la deuxième partie de notre soirée. Je vous remercie.
C'est la liturgie du compil que nous vous invitons donc à rester avec nous, prier ensemble, le temps de remettre un peu le dispositif conforme à cette liturgie.